en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie vous invite à suivre la deuxième émission de la série en quatre volets intitulée « Le mois de Simone Veil ». Simone Veil, qui occupe désormais parmi les immortels le 13e fauteuil de l'Académie française, fut ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de 1974 à 1979 et première femme président du Parlement européen, élue au suffrage universel, de 1979 à 1982. Nommée ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, de 1993 à 1995, elle fut membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Cette même année 2007, Simone Veil fit paraître aux éditions Stock un livre intitulé « Une vie ». Maupassant que j'aime, écrit-elle, ne m'en voudra pas d'avoir emprunté le titre d'un de ses plus jolis romans pour décrire un parcours qui ne doit rien à la fiction. En effet, dans son livre « Une vie », comme l'explique en quatrième de couverture les éditions Stock, Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger. Son autobiographie était attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est, libre, véhémente, sereine. Canal Académie a donc le grand plaisir de recevoir dans ses studios pour une série de quatre émissions Simone Veil. Toutefois, nous avons délibérément choisi de ne pas faire intervenir directement Madame Veil dans le récit des pages les plus douloureuses de ce livre et donc de sa vie, afin de lui épargner le profond désagrément d'avoir à exprimer à nouveau devant nos micros ce qu'elle a su admirablement traduire et confier à chacun d'entre nous avec ses mots personnel dans son livre de souvenirs intitulé donc « Une vie » et paru aux éditions Stock. De ce fait, plusieurs lectures retraçant ces événements lourds et terribles vous seront proposées au cours de cette deuxième émission intitulée « Shoah ». Au début de son livre, Une vie, Simone Veil confie. Les photos conservées de mon enfance le prouvent. Nous formions une famille heureuse. Nous voici les quatre frères et sœurs, serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous. Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Elles avaient pour nom harmonie et complicité. Nous avons donc reçu les meilleures armes pour affronter la vie. Plus tard, mais très vite, le destin s'est ingénié à brouiller des pistes qui semblaient si bien tracées, au point de ne rien laisser de cette joie de vivre. Chez nous, comme dans tant de familles juives françaises, la mort a frappé tôt et fort. André Jacob, le père de Simone Veil, architecte de son métier, a été durement secoué par 4 années de captivité pendant la Première Guerre mondiale, peu de temps après avoir obtenu son Grand Prix de Rome. Divonne Steinmetz, la mère de Simone Veil, irradie une beauté rayonnante qui évoque pour beaucoup celle de la star de l'époque, Greta Garbo. 4 enfants naîtront de cette union, Madeleine, surnommée Milou, puis Denise, ensuite Jean et la jeune Simone en 1927. Côté maternel et paternel, comme tous les membres de ces familles juives assimilées, confie Simone Veil, celle de mon père était profondément patriote et laïque. Je dispose de moins de précisions sur les membres de ma famille maternelle, mais tout ce petit monde était foncièrement républicain et laïque, du côté de ma mère comme de celui de mon père. Très simplement, nous étions juifs et laïques et n'en faisions pas de mystère. J'ignorais tout de la religion. Quelques mots encore de la laïcité. Elle était notre référence. Elle est demeurée. Ma mère, athée comme je le suis moi-même, continue d'incarner à mes yeux le paroxysme de la bonté. Pour autant, je ne méconnais pas l'aide que peuvent apporter les religions aux croyants et je conserve avec admiration le souvenir de ces jeunes Polonaises que la vie du camp avait déjà réduite à un état quasi squelettique et qui s'obstinaient pourtant à jeûner le jour de Kippour. À leurs yeux, le respect des rites avait plus d'importance que leur survie. J'en demeure impressionnée. 2 ans après leur mariage, en 1924, mes parents avaient quitté la capitale pour s'installer à Nice. Début de l'année 1944, la Gestapo redoublait les contrôles et la traque. La jeune Simone passe les épreuves du bac. Elle a 16 ans. Examen réussi. J'avais rendez-vous avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque soudain, 2 Allemands en civil nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. Un rapide regard sur ma carte d'identité leur suffit. Elle est fausse. Je me défendis avec un parfait aplomb, mais pas du tout. Ils refusèrent de discuter et nous conduisirent aussitôt à l'hôtel Excelsior, où la Gestapo menait les interrogatoires des personnes interpellées. Le mien n'a pas duré longtemps. Tandis que je m'acharnais à répéter que mon nom était bien celui qui figurait sur mes papiers, l'un des Allemands m'a désigné d'un geste une table sur laquelle se trouvait une pile de cartes d'identité vierges, mais dont la signature, facilement reconnaissable à son encre verte, était identique à la mienne. Le ton était aimable mais ironique. « Votre carte d'identité, on en a autant que vous voulez. » Je suis restée sans voix. Avait-il raflé tout un stock ou avait-il réussi à mettre en circulation des fausses cartes? Rien n'était impossible. Je me suis alors dit « Toute la famille a les mêmes cartes que moi, il faut les prévenir. » J'ai donc fourni une fausse adresse aux Allemands avant de supplier un camarade non-juif avec lequel j'avais été arrêté et qui s'apprêtait à ressortir libre de l'hôtel Excelsior de prévenir ma famille. S'est alors produit un tragique concours de circonstances. Ce jour-là, mon frère Jean avait rendez-vous avec maman. S'étant manqué, chacun de son côté se rendit à l'endroit où j'habitais et où, à un autre étage, vivait aussi ma sœur Milou. Tous les trois, au même moment, se retrouvèrent ainsi pour la première fois dans l'escalier de l'immeuble. Et comme le garçon qui devait les prévenir avait été suivi par la Gestapo, le coup de filet fut rapide. L'arrestation s'est ainsi effectuée de la façon la plus absurde qui soit. Maman, Milou et Jean étaient sortis de chez eux, comme moi-même 2 ou 3 heures plus tôt, convaincus que leur carte d'identité les protégeait. Les voyant arriver à l'hôtel Excelsior, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'une nasse se refermait sur nous, que nos existences prenaient dès lors un tour dramatique. Désormais, il était inutile de lutter. Même si mon frère n'était pas circoncis, nos fausses cartes suffisaient à nous dénoncer comme juifs. Nous tentions pourtant de nous rassurer en nous répétant que le pire n'était jamais certain. Maman, elle, conservait l'espoir et dans notre malheur se réjouissait que nous soyons ensemble. L'horreur commence. Simone, sa mère, sa sœur Milou et son frère Jean sont arrêtés, donc. Son père le sera aussi quelques jours plus tard. Sa sœur Denise, qui avait rejoint la résistance, sera arrêtée elle aussi et déportée à Ravensbrück. Simone apprendra plus tard que son père et son frère ont été embarqués ensemble pour Kaunas en Lituanie. Nul ne saura le sort qui leur fut réservé. La famille Jacob est démantelée à jamais. L'attente est longue, les conditions de vie difficiles dans le camp de Drancy. Simone Veil écrit. Quant aux responsables juifs, j'ignore ce qu'ils savaient de ce qui nous attendait. À mon avis, ils en savaient plus d'intuition que de connaissance. Mais s'ils savaient quelque chose, rien n'en transpirait, ce qui se comprend. Je me dis que même s'ils avaient eu des doutes sur notre sort futur ou des bribes d'informations, ils n'auraient rien dit, parce que le camp serait devenu intenable et les représailles atroces. Je n'ai donc jamais entendu parler à Drancy de chambre à gaz, de four crématoire ou de mesures d'extermination. Tout le monde répétait que nous devions être acheminés en Allemagne pour y travailler très dur. Mais vers quelle destination? Faute de le savoir, on parlait de Pichipoy, terme inconnu désignant une destination imaginaire. Les familles espéraient ne pas être séparées, et c'était tout. Après-guerre, on a souvent épilogué sur la connaissance que les Juifs pouvaient avoir de la situation. En fait, Leurs informations étaient très en deçà de ce que l'on a pu penser. Les Juifs étrangers traqués les premiers ont su plus rapidement que les Français de quoi ils retournaient. On en savait plus en zone occupée qu'en zone libre. Pour Simone, sa mère et sa sœur Milou, l'enfer prit les noms suivants. Hôtel Excelsior, Drancy, Auschwitz-Birkenau, Bobrek, Gleiwitz, Dora, Bergen-Belsen. La lutte pour la survie, un quotidien effroyable, tout ce qui ne peut pas se traduire avec des mots. Simone Veil a écrit page 53 de son livre « Une vie » paru aux éditions Stock. Jour après jour, nous attendions tous les quatre, maman, ma sœur Milou, mon frère et moi, un départ pour l'Allemagne, dont nous ignorions aussi bien la date que la destination, avec le seul espoir, ne pas être séparés. Personne n'avait entendu parler d'Auschwitz dont le nom n'était jamais prononcé. Comment aurions-nous pu avoir une idée quelconque de l'avenir que les nazis nous réservaient ? Aujourd'hui, il est devenu difficile de réaliser à quel point l'information sous l'occupation était rationnée et cloisonnée. C'est au mois d'avril 1944 qu'avec ma mère et ma sœur, nous avons été déportés à Auschwitz. Après avoir passé une semaine à Drancy où tous les Juifs de France étaient regroupés, nous avons été entassés pendant 3 jours terribles dans des wagons à bestiaux plombés, pratiquement sans nourriture, sans eau et sans rien savoir de notre destination. Mon père et mon frère, eux aussi arrêtés, ont été déportés à Kaunas, en Lituanie, dans un convoi de 850 hommes. Seule une vingtaine ont survécu. Du sort de mon père et de mon frère, nous n'avons jamais rien su. Nous sommes arrivés à Auschwitz en pleine nuit. Tout était fait pour nous terrifier. Les projecteurs aveuglants, les aboiements des chiens des SS, les déportés en tenue de bagnard qui nous tiraient hors des wagons. Le docteur Mengele, SS maître de la sélection, désignait alors par un simple geste ceux qui entreraient dans le camp et ceux qui, supposés fatigués, étaient dirigés vers les camions prévus pour les conduire directement vers les chambres à gaz. Par miracle, nous sommes toutes les trois entrées dans le camp où nous avons été affectés à des travaux de terrassement, le plus souvent totalement inutiles. Nous travaillions plus de 12 heures par jour et étions à peine nourris. Notre sort n'a pas été le pire. Au mois d'avril et mai 1944, 435 000 Juifs sont arrivés de Hongrie. Pour faciliter leur extermination, on avait prolongé la voie ferrée à l'intérieur du camp, au plus près des chambres à gaz. Dès leur descente des wagons, la plupart y ont été conduits. Pour nous qui les voyions et savions ce qui les attendait, c'était une vision d'horreur. J'ai encore en mémoire ces visages, ces femmes portant leurs jeunes enfants, ces foules ignorantes de leur destin qui marchaient vers les chambres à gaz. J'étais dans un bloc tout proche de la rampe où arrivaient les trains. C'est ce que j'ai vu de pire. Nous qui pensions ne plus avoir de larmes, nous avons pleuré. Je pense encore souvent à eux. Enfin, le 15 avril 1945, nous avons été libérés par l'armée britannique. Je revois encore la stupeur horrifiée des soldats qui, de leurs chars, découvraient les cadavres accumulés sur le bord de la route et les squelettes titubants que nous étions devenus. Nul cri de joie de notre part, seulement le silence et les larmes. Je pensais à ma mère qui était morte un mois plus tôt, d'épuisement, du typhus. Au cours de ces semaines, faute de soins, beaucoup d'entre nous sont morts. Ma sœur et moi, libérées le 15 avril 1945, ne sommes rentrées en France qu'à la fin du mois de mai. Sans doute craignait-on en haut lieu que l'on ne risque d'introduire dans notre pays une épidémie de typhus. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et vous est proposé actuellement le deuxième volet d'une série de 4 émissions consacrées à Simone Veil. Madame Veil, dans votre livre « Une vie » paru aux éditions Stock, vous dites tirer votre force, votre énergie, justement, de la force de caractère de cette mère qui était extrêmement courageuse. Qu'est-ce que votre mère a eu le temps de vous transmettre pour votre développement personnel, pour votre mise en route d'être profond ?
Quand j'étais petite, il y avait toutes les amies de maman qui disaient « Oh, tu la gâtes trop », etc. Bon, j'ai entendu ça comme ça.
Petite dernière.
La petite dernière. Et bon, c'était la petite dernière. Et probablement, oui, que j'étais capricieuse, que j'étais...
Elle était très proche de vous ?
Oui, très proche. C'est vrai qu'elle me gâtait. Par exemple, toute la famille faisait du ski. Moi, j'aimais pas ça. J'avais froid. On me laissait comme ça, et ça. Alors, j'aimais beaucoup mieux rester avec maman, l'avoir pour moi toute seule. Ça, c'était le rêve.
Et sa force, son énergie, vous la ressentez? Parce que c'était une femme de caractère.
Non, c'était pas une femme de caractère. C'était une femme de bonté. C'est pas du tout pareil. Même au camp. Moi, je vois, elle était une des rares au camp. De cet âge-là, la plupart de mes amis, leur mère n'était pas entrée au camp. Toutes, elles l'ont admirée, par sa bonté, par...
Son courage.
Son courage, son courage.
Et ça, c'est éclairant pour lui, une vie d'adulte qui
ouais.
commence.
Ah oui, ah oui. Bon, alors je m'étais consolée avec ma... Enfin, ma sœur jouait un peu ce rôle-là, après, toujours. Mais enfin, maman était... Toutes mes amies en conservent un souvenir formidable.
Simone Veil écrit page 87 de son livre de souvenirs « Une vie ». Maman était déjà très affaiblie par la détention, le travail pénible, le voyage épuisant à travers la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Elle n'a pas tardé à attraper le typhus. Elle s'est battue avec le courage et l'abnégation dont elle était capable. Elle conservait la même lucidité sur les choses, le même jugement sur les êtres, la même stupeur face à ce que des hommes étaient capables de faire endurer à d'autres hommes. En dépit de l'attention que Milou et moi nous lui prêtions, malgré le peu de nourriture que je parvenais à voler pour la soutenir, son état s'était rapidement détérioré. Sans médicaments ni médecins, nous étions incapables de la soigner. Jour après jour, nous la voyions décliner. Assister avec impuissance à la fin lente, mais certaine de celle que nous chérissions plus que tout au monde, nous était insoutenable. Elle est morte le 15 mars, alors que je travaillais à la cuisine. Lorsque Milou m'a informé à mon retour, le soir, je lui ai dit « C'est le typhus qui l'a tuée, mais tout en elle était épuisé. » Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après, je me rends compte que je n'ai jamais pu me résigner à sa disparition. D'une certaine façon, je ne l'ai pas acceptée. Chaque jour, maman se tient près de moi. Et je sais que ce que j'ai pu accomplir dans ma vie l'a été grâce à elle. Sans doute n'ai-je pas la même indulgence qu'elle. Sur bien des points, elle me jugerait avec une certaine sévérité. Elle me trouverait peu conciliante, pas toujours assez douce avec les autres, et elle n'aurait pas tort. Mais pour toutes ces raisons, elle demeure mon modèle, car elle a toujours su affirmer des convictions très fortes, tout en faisant preuve de modération, une sagesse dont je sais que je ne suis pas toujours capable. Simone Veil déclare, page 95 de son livre de mémoire « Une vie ». Pour ce qui me concerne, je pense que les Alliés ont eu raison de faire de l'achèvement des hostilités une priorité absolue. Si l'on avait commencé à divulguer l'information à propos des camps, l'opinion publique aurait exercé une telle pression pour les faire libérer que l'avance des armées sur les autres fronts, déjà difficiles, eût risqué d'en être retardée. Les services secrets étaient informés des recherches allemandes en matière d'armes nouvelles. Aucun état-major ne pouvait prendre le risque de différer la chute du Reich. Les autorités alliées ont donc opté pour le silence et l'efficacité. Il n'en demeure pas moins exact qu'aux États-Unis, les mieux informés savaient ce qu'il en était des camps. Et non moins exact que la communauté juive américaine, très protectionniste, ne s'est guère manifestée, sans doute dans la crainte d'un afflux brutal de réfugiés. Je ne partage pas davantage les jugements négatifs sur le silence coupable des Alliés que le masochisme d'intellectuels tels Hannah Arendt sur la responsabilité collective et la banalité du mal. Un tel pessimisme me déplaît. J'ai même tendance à y voir un tour de passe-passe commode. Dire que tout le monde est coupable revient à dire que personne ne l'est. C'est la solution désespérée d'une Allemande qui cherche à tout prix à sauver son pays, à noyer la responsabilité nazie dans une responsabilité plus diffuse, si impersonnelle qu'elle finit par ne plus rien signifier. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. Faut-il donc transformer en icône quelqu'un qui proclame à longueur d'écrit, qu'immergé dans les drames de l'histoire, tous les hommes sont également coupables et responsables, que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'exception à la possibilité de la barbarie humaine? J'en doute, notamment en repensant aux commentaires qui ont été les siens à l'époque du procès Eichmann. Ce qui ruine le pessimisme fondamental des adeptes de la banalisation, c'est à la fois le spectacle de leur propre lâcheté, mais aussi en contrepoint l'ampleur des risques pris par les justes, ces hommes qui n'attendaient rien, qui ne savaient pas ce qui allait se passer, mais qui n'en ont pas moins couru tous les dangers pour sauver des Juifs, que le plus souvent ils ne connaissaient pas. Leurs actes prouvent que la banalité du mal n'existe pas. Leur mérite est immense, tout autant que notre dette à leur égard. En sauvant tel ou tel individu, ils ont témoigné de la grandeur de l'humanité. Mais la majorité des Français et le gouvernement voulaient oublier le passé. Personne n'avait envie d'entendre parler de la déportation, de ce que nous avions vu, vécu, quant aux Juifs qui n'avaient pas été déportés, c'est-à-dire en ce qui concerne la France, les trois quarts d'entre eux, la plupart, ne supportaient pas de nous entendre. D'autres préféraient ne pas savoir. Il est vrai que nous n'avions pas conscience de l'horreur de nos récits. C'est donc entre nous, les anciens déportés, que nous parlions du camp. La Shoah ne se résume pas à Auschwitz. Elle a couvert de sang tout le continent européen. Processus de déshumanisation mené à son terme. Elle inspire une réflexion inépuisable sur la conscience et la dignité des hommes, car le pire est toujours possible. Simone Veil, comment pouvoir solutionner cette question ? Comment est-ce qu'une victime peut devenir bourreau et comment est-ce qu'un bourreau peut devenir victime à son tour? Est-ce que vous pensez que c'est une circulation comme ça qui peut exister?
Non, je ne crois pas du tout.
On est déterminé quelque part?
Non, mais le fait d'entrer dans un certain groupe où on sait que les choses sont comme ça, c'est qu'on les accepte, c'est qu'on le fera. Il y avait parmi les SS quelques-uns qui avaient été recrutés parce qu'ils étaient des pays voisins, mais qu'en fait ils n'étaient pas allemands, ils étaient Volksdeutsch. Et ils n'étaient pas convaincus tellement de ce qu'ils avaient à faire, ce qui fait que c'était plus facile. Avec justement maman et ma sœur, toutes les trois, on a été dans un petit camp qui était pas très loin, tout près d'Auschwitz, mais enfin où on était très peu nombreuses, ce qui fait que la discipline était forcément beaucoup moins dure que dans les grands camps, ne serait-ce que pour le travail, parce que dans les camps, le travail était quelquefois très loin, très difficile, très lourd. C'était pas du tout le cas dans cet endroit. Alors moi, j'ai appris à ce moment-là, on a construit un bâtiment. Moi, j'ai appris très bien à servir avec les petites pelles, vous savez, quand on fait comme ça. Alors quelquefois, quand j'ai eu comme ministre à parrainer quelque chose, ça je veux, les gens disaient toujours que je maniais la pelle très bien. mais enfin, ce moment était déjà malade, enfin assez malade, mais là elle a eu une chance. Mais sinon, en dehors de ces SS qui étaient obligés compte tenu de leur nationalité d'origine, sinon ils étaient là pour nous tuer, hein, faut bien dire.
Est-ce que c'est la société qui transforme l'homme ou est-ce que l'homme est-il un loup pour l'homme, selon la célèbre formule de Hobbes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Regardez ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Le traité de Versailles a été épouvantable. S'il n'y avait pas eu ça, pour moi, ce qui a toujours été un vœu que j'ai fait très profondément, c'était qu'on se réconcilie avec les Allemands, parce qu'au fond, s'agissant de l'Europe, ce sont ces conflits entre Français et Allemands qui n'ont cessé pendant des siècles même de faire que nous avons connu la guerre de 14. Ensuite, moi, je me souviens très bien, mes parents se disputaient toujours à ce sujet, parce que ma mère trouvait qu'on aurait dû chercher, après la guerre, un accord avec les Allemands, faire ce que souhaitaient un certain nombre de Français, et enfin, un certain nombre de grands personnages. Et que mon père disait, on ne peut rien en faire, il avait été prisonnier, il faut dire, pendant toute la guerre de 14, et qu'il était férocement anti-allemand. Et moi, je dois dire que même au moment où je suis rentrée de déportation, eh bien, un de mes plus grands souhaits, c'était justement que les Allemands aient un régime démocratique, que tout ce qui avait été fait par les nazis, tout ça, soit répudié complètement, et qu'on puisse effectivement créer l'Europe. J'ai toujours été une Européenne convaincue dès le départ. Je me suis mariée très, très vite après mon retour de déportation et mon mari avait tout à fait les mêmes idées. Nous avons toujours été vraiment des militants de l'Europe, d'ailleurs à tel point que nous avons même accepté de vivre, pu vivre en zone américaine d'ailleurs, puisque c'est encore l'occupation. Mais nous avons vécu en Allemagne, à Wiesbaden. Et nos enfants ont appris tout petit, étaient à l'école, il y en avait deux à l'époque, et ils allaient à l'école allemande et apprenaient et parlaient comme des petits Allemands. Ils ont tout oublié, naturellement, mais enfin, c'est pour dire que c'était pour nous la seule solution pour l'avenir. Que sans ça, on repartait dans des conflits indéfinis. Bon, ben, il ne faut pas que ce soit un loup pour l'homme. C'est simplement parce que...
La bonne décision n'a pas été prise à ce moment-là.
Voilà,
et donc tout. Ensuite, il y a toute une...
Il faut que chacun ait sa responsabilité, pas dire l'homme est un loup pour l'homme. Parce que dans des situations très difficiles, on trouve des gens qui se comportent très bien. Et c'est là où la démocratie joue son rôle. L'organisation, et je me réjouis quand je me dis que maintenant, j'espère qu'on va signer le traité de Lisbonne, et j'espère que comme ça, au moins, l'Europe donnera un modèle d'un certain nombre de choses. Regardez Obama.
Obama, le président américain à qui l'on vient de décerner le prix Nobel de la paix, magnifique.
C'est ça, c'est d'avoir des régimes démocratiques. Et il y en a tout de même plus. Quand on regarde ce qui fait aujourd'hui la paix, il y a même les Russes qui vont venir nous rejoindre un de ces jours.
Quelle est la valeur la plus chère que vous défendriez ? C'est l'authenticité, la vérité ?
La vérité, il y a des cas où on ne peut pas la dire, mais enfin, c'est quand même d'être essayé de... Je crois que c'est pas... Moi, je pense que si je me regarde, et d'ailleurs, les gens me le disent, etc., je suis rebelle. Voilà. Je suis rebelle. C'est-à-dire que quand on... Assez. Je regarde toujours comment les choses vont se passer. On vient, on est un moment... Les gens m'écrivent. Alors, il y a des lettres que je trouve... très bien, importante, j'essaie de faire quelque chose, c'est pas toujours possible, mais je trouve qu'effectivement, soit l'administration, soit n'importe quoi, ils n'ont pas été bien traités, ou même simplement, je me dis, si j'écris une lettre à cette femme, c'est souvent des femmes qui m'écrivent, et que je peux un peu lui redonner du courage, bon, je le fais. Mais je veux être libre, Je veux pouvoir, et même ma première, je dirais que ma première réaction dans un certain nombre de cas, c'est de dire le contraire. Je le dis parce que c'est vrai. J'ai besoin d'examiner.
La Fondation pour la mémoire de la Shoah, que vous avez présidée, s'interroge, le camp d'Auschwitz tombe en ruine, faut-il entretenir ces lieux de la honte et de la barbarie? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre position par rapport à cette question?
Elle est très précise. Ma position, elle est d'autant plus précise que je suis allée cet été à Auschwitz avec mon mari, enfin à Birkenau, parce qu'à Auschwitz c'était des bureaux largement où c'était, il y avait un petit où travaillaient quelques des déportés, mais enfin c'était à Birkenau qu'il y avait les chambres à gaz et que tout se passait. Et mon mari n'avait jamais voulu y aller et cette année il s'est décidé à ce que nous y allions et on y a été ensemble. Et j'ai été très impressionnée par la façon dont le camp de Birkenau existe toujours. D'abord, il y avait des gens de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, des Japonais, enfin vraiment un monde fou, très respectueux, très... Puis on n'a pas touché aux choses, enfin le moins possible, on a laissé les choses, le camp tel qu'il était. Et bon, moi j'ai été retournée plusieurs fois avec des camarades, et je suis convaincue, enfin, je crois qu'il faut tout faire pour le préserver. Je dirais que le seul problème qui se pose, c'est de savoir qui en a la responsabilité. Ça n'est pas encore géré, mais en ce moment, comme il y a des problèmes de terrain qui se détruisent, enfin qui s'abîment, que certains des bâtiments aussi, il y a des discussions et
c'est en cours.
Je suis pas sûre que de faire un espèce de centre. De quelque chose de tout à fait différent d'un centre sur tout ce qui représente les génocides et autres. Je ne suis pas sûre. Voilà. Après avoir été à Auschwitz, j'ai changé.
Vous êtes en train de réfléchir et de conformer.
Pour que les choses restent comme elles sont. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Quand on y va comme ça, on n'a pas ce sentiment. Je n'ai pas du tout eu le sentiment que tout s'écroulait. Mais évidemment, on ne peut pas se rendre compte comment ça se passe.
Vous dites collectivement, il faut se souvenir, mais le devoir de mémoire à l'échelon individuel, c'est une expression que vous n'aimez pas.
C'est le devoir. C'est le mot devoir que j'aime pas. Vraiment, je dois dire que je trouve que, en tout cas, on n'a pas le droit d'oublier.
Que répondent Madame Veil à ceux qui critiquent la Shoah quand celle-ci leur semble être comme une religion?
Je crois que ça n'est pour personne une religion.
Madame Veil, Charlotte Delbault, femme de théâtre et de lettres, déportée à Auschwitz, que vous connaissez, puis à Ravensbrück, a écrit notamment ces quelques lignes. Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain, sauf sa faculté de penser et d'imaginer? Vous ne savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser, la force de penser. L'imaginaire est le premier luxe du corps, qui reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. À Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. Comment objecterez-vous? Chacun n'a-t-il pas son bagage de souvenirs? Non. Le passé ne nous était d'aucun secours, d'aucune ressource. Il était devenu irréel, incroyable. Tout ce qu'avait été notre existence d'avant s'effilochait. Parler restait la seule évasion, notre délire. De quoi parlions-nous? De choses matérielles et consommables ou réalisables. Il fallait écarter tout ce qui éveillait la douleur ou le regret. Nous ne parlions pas d'amour. Alors vous revenez aussi, vous réagissez par rapport à des propos qui sont tenus. On affirme toujours que les détenus entre eux étaient prêts à n'importe quoi pour survivre. Et vous vous inscrivez en faux, vous parlez de solidarité.
Quand on arrivait à Auschwitz sur la rampe, c'était des Français qui, pour se faire comprendre comment il fallait, enfin, où il fallait aller, etc. Et il y a un Français qui m'a dit « Quel âge vous avez ?» Et j'ai dit « J'ai 16 ans ». Et il m'a dit, dites que vous en avez 18. Vous voyez, il y avait donc c'est que à un certain âge, on risquait. Moi, je vois dans le convoi où j'étais, on était, et Marceline Loridan, on était deux ou trois à avoir cet âge-là.
Ce sentiment que tout se passe ici, dans la vie, sur cette terre, aucun souci de transcendance, aucun sentiment d'appartenance à quelque chose d'autre que l'on découvrira peut-être après la mort. Pour vous,
ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Non.
Donc c'est ici
non,
et maintenant.
Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour moi, la seule chose qui existe, que je dis toujours, c'est qu'au moment de ma mort, ce à quoi je penserai, c'est la déportation et la mort de mes parents. C'est ça.
Par communion, pour avec eux ou pour les retrouver?
Parce que non, pas pour les retrouver, parce que c'est ce qui a été le plus marquant, c'est ce qui a détruit notre vie.
Parler de la Shoah. Et comment? Écrit Simone Veil, page 102 de son livre « Une vie ». Ou bien ne pas en parler? Et pourquoi? Éternelle question. Le romancier israélien Aaron Appelfeld a écrit plusieurs livres superbes, notamment « Histoire d'une vie », où il raconte son évasion du camp alors qu'il a 10 ans et ses 3 ans de cache dans la forêt ukrainienne. Il vient de publier 3 discours prononcés en Israël. C'est un livre bouleversant dans lequel il analyse la Shoah en expliquant que ceux qui en ont été les victimes ne s'en sortent jamais. À sa lecture, je me suis rendu compte qu'au fond, nous aurons toujours vécu avec cela. Certains répugnent à l'évoquer, d'autres ont besoin d'en parler, mais tous vivent avec. Appelfeld énonce les raisons pour lesquelles on ne peut plus s'en détacher. Elles sont terribles. Et marque la différence de nature avec la situation des résistants. Eux sont dans la position des héros. Leur combat les couvre d'une gloire, qu'accroît encore l'emprisonnement dont ils l'ont payé. Ils avaient choisi leur destin. Mais nous n'avions rien choisi. Nous n'étions que des victimes honteuses, des animaux tatoués. Il nous faut donc vivre avec ça, et que les autres l'acceptent. Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmé sur l'Holocauste, n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Non ! Rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais au-delà de ces horreurs, seul importe les morts. La chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine, et pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés, il n'y a que la Shoah. L'atmosphère de crématoire, de fumée, de puanteur de Birkenau, je n'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes et polonaises, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. En France, écrit Simone Veil, page 397 de son livre de souvenirs, intitulé « Une vie » paru aux éditions Stock, 76 000 juifs ont été déportés. Mais les trois quarts des juifs de France ont été sauvés. Ils le doivent à ces milliers de Français qui les ont aidés et qui ont incarné le courage, la générosité, la solidarité. Si j'évoque les justes, c'est parce que je suis convaincue qu'il y aura toujours des hommes et des femmes de toutes origines et dans tous les pays, capables du meilleur. À l'exemple des justes, je veux croire que la force morale et la conscience individuelle peuvent l'emporter. En conclusion, et en me réjouissant que vendredi dernier, la résolution condamnant la négation de l'Holocauste ait été aussi pleinement approuvée, je forme les vœux les plus ardents pour que cette journée décide que les Nations Unies inspire à tous les dirigeants, à tous les hommes et femmes de par le monde, le respect de l'autre, le rejet de la violence, de l'antisémitisme, du racisme et de la haine. Je souhaite solennellement vous redire que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. New York, le 29 janvier 2007. Vous venez donc d'écouter la deuxième des quatre émissions consacrées à Simone Veil, Simone Veil de l'Académie française. Madame Veil, merci d'avoir participé à ce temps de réflexion autour des micros de Canal Académie. Merci.